Bon, je compte.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Je vous ai compris.
Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Ahlan wa sahlan, salutations à tous les sémites de cette planète. Aujourd'hui, Panique dans la Wilaya, épisode 2, c'est l'histoire d'une France devenue folle. Alors que la petite sœur algérienne rêve d'indépendance, que ça pète, ça mitraille, ça persécute de partout, la France ne sait plus où donner de la tête. Vous en conviendrez cependant, ce n'est pas en torturant sa petite sœur qu'on la convainc de rester à la maison, et donc, le divorce entre la France et l'Algérie est consommé avant d'être acté. Mais comment ? Comment un papillon qu'on torture dans la Casbah provoque une tornade à l'Assemblée nationale ? D'autant que le sujet est d'actualité puisque nous célébrons cette année même les 60 ans de l'indépendance algérienne. Panique dans la Wilaya, c'est une saga en plusieurs épisodes et qui avait commencé avec Enrico Macias pour nous emmener entre Paris, Alger et un petit village de Haute-Marne qu'on appelle Colombey-les-Deux-Églises. Une série sur l'Algérie, son histoire, ses peuples, sa musique. La fin des années 50 en France est une période pour le moins curieuse. La 4ème République est sur le point d'exploser, la gauche n'est plus vraiment à gauche, la droite n'est plus vraiment à droite non plus, le fascisme manifeste dans les rues de Paris, accompagné du salafisme en Algérie, les nostalgiques de Pétain reviennent, ceux du général de Gaulle aussi, pour la Toussaint, les rues de la Ville Blanche sont maculées de rouge, alors... Au programme d'aujourd'hui, les opinions qu'on échangeait dans le souk et à voix basse, les groupes, les partis qui ont fait l'indépendance algérienne, leurs journaux, en passant aussi par la bataille d'Alger et ce duel historique entre les parachutistes du général Massu et la jeunesse algéroise derrière Yassef Chahadi. Un voyage dans les deux phases de l'indépendance algérienne, de sa guerre, de ses opinions. Pour terminer enfin sur une réflexion à propos de l'islam, sa place dans l'indépendance algérienne et surtout la place aussi du salafisme dans la guerre et dans les rangs du FLN. Mais pour ça, il faut d'abord retourner en Algérie, je vous avais laissé dans notre dernier épisode à Sidi Ferrouche, là où les Français ont débarqué en 1830. Partons désormais pour la capitale des révolutions, la ville qui a donné son nom à ce beau pays d'Algérie, Alger.
Yeah. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل لله يا ليل.
Je vous propose de quitter Sidi Ferrouche et d'approcher de la capitale du pays, une ville blanche face à la mer et aux murs gorgés de soleil, Alger. Alger est construite autour d'une casbah, comme beaucoup de villes berbères, et la casbah, c'est la citadelle, soit une petite ville dans la ville. Bâtie à hauteur avec des terrasses et ceinturée d'une muraille fortifiée, la Casbah, ce sont de petites ruelles étroites qui se perdent en autant de labyrinthes, des portes ouvertes qui donnent sur des cours où toutes les portes sont closes. Quand la Casbah se vide, on parle à voix basse, mais dès qu'elle se remplit, elle devient vacarme, cri, percussion. Et c'est tout son paradoxe, à la fois le silence du Sahara et le bruit des bazars. Les habitants se retrouvent au souk, dans une cour intérieure ou au café. On discute des actualités, ce qu'il faut en penser, ce qu'il faut en dire, car en Algérie, ça parle beaucoup. Comme partout en Méditerranée d'ailleurs, la culture orale y est centrale. C'est là que se discutera l'indépendance. Entre le bazar et la mosquée, dans cette ambiance faite d'alcôves, de recoins et de murmures, un espace secret et confiné. Avant la guerre, l'Algérie était déjà excitée au fer blanc, une intense vie politique et intellectuelle posait les questions de l'indépendance. Alors, on ne le faisait pas en français, on le faisait en arabe, on discute révolution dans la langue de Mohammed, mais quand un français passe, on répond « Bonjour monsieur ». S'il est difficile pour les indigènes de se faire entendre politiquement, c'est surtout grâce à la presse que l'Algérie va s'émanciper. En quelque sorte, c'est la presse qui va donner un sens, une consistance à cette palabre de la Casbah. On l'a vu dans l'épisode précédent, mais une minorité de musulmans vont obtenir la nationalité française. Certains auront même l'opportunité de faire des études, ce qui permet la création d'une élite intellectuelle de souche algérienne, qui se met à lire les journaux français et à rêver aussi d'une presse algérienne. Il y aura de très nombreux titres de presse, pour la plupart bilingues, lesquels vont cristalliser la vie politique algérienne et donner à toutes les opinions leur étendard, leur journal. Car un journal, c'est un public, et un public, ce sont des opinions. Beaucoup de mouvements et de personnalités vont animer l'Algérie au début du XXe siècle, comme l'émir Khaled, petit-fils d'Abdelkader avec ses jeunes Algériens et leur journal L'Igdam. Le même émir Khaled qui écrivait dans son article La vérité offense du 12 janvier 1923, je cite, « La sécurité, on l'aura ». Non pas comme on l'a proposé, en multipliant les mesures d'exception, les brigades de gendarmerie, en fortifiant les pouvoirs discrétionnaires des administrateurs. La sécurité, on l'aura en cessant d'exploiter l'indigène sous le prétexte de l'émanciper et l'assimiler. Une citation qui garde, aujourd'hui encore, toute sa pertinence. Mais les jeunes Algériens ne sont pas les seuls à se politiser. Les années 30 sont d'ailleurs très riches en mouvements politiques. Ferhat Abbas, avec son Union démocratique, Abdelhamid Ben Badis, représentant les oulémas d'Algérie et donc l'islam politique, ou encore Messali Hadj et son étoile nord-africaine, les plus révolutionnaires avant l'arrivée du FLN du moins. Ferhat Abbas, par exemple, est pour l'assimilation de l'Algérie à la France, alors qu'Abdelhamid Ben Badis voit ça comme une illusion et professe un nationalisme algérien et musulman, tout comme Messali Hadj d'ailleurs, bien qu'il ne soit pas d'accord sur la place à accorder à l'islam ni sur les moyens d'atteindre l'indépendance. Sans oublier évidemment le Parti communiste algérien, lequel n'est pas vraiment sur la ligne du Parti communiste français, même les communistes sont divisés sur la question algérienne. Et c'est normal, le Parti communiste français n'a jamais véritablement œuvré à l'indépendance algérienne. En 1956, ils votent les pouvoirs spéciaux, ce qui livre l'Algérie à l'armée française. En 1961, ils appellent à voter non à l'autodétermination d'Algérie. Ils refusent même l'indépendance de l'Algérie dans un grand Maghreb, incluant le Maroc et la Tunisie. La gauche française est parfois curieuse. L'opinion algérienne avant la guerre n'est donc pas monolithique. On y trouve, tout azimut, des réformistes, démocrates ou musulmans, des assimilationnistes, des nationalistes, des socialistes ou des communistes. Une chose est sûre, il n'y a pas de consensus dans l'opinion algérienne. Mais dans tous les cas, les conditions de la colonisation sont critiquées. Et c'est surtout avec les massacres de 1945 à Sétif qu'on voit apparaître une nouvelle manière de lutter contre la France et contre le colonisateur. Une lutte qui ne sera plus ni par le débat ni par la presse, elle sera militaire et sous un seul drapeau, celui du FLN, le Front de Libération Nationale, qui va progressivement occulter tous les autres mouvements. Le Front de Libération Nationale, c'est surtout une méthode, instaurer un climat de terreur sur toute la colonie en s'attaquant à la fois aux Européens mais aussi aux indigènes pour dévaloriser le pouvoir colonial et ainsi hâter l'indépendance. Ils sont souvent d'obédience socialiste, mais un socialisme peu orthodoxe, plus proche de Nasser, le socialisme n'ayant jamais vraiment fait consensus au FLN, dans tous les cas, ce sont des révolutionnaires. D'ailleurs, le FLN pendant la guerre d'Algérie est plus une nébuleuse qu'un groupe organisé, il n'y a pas vraiment d'idéologie officielle pour le Front de Libération Nationale. Et comme toutes ces petites discussions dans la Casbah ont mené un jour à l'indépendance de l'Algérie, je vous passe en face à Lynn Monti et son Alger Alger, encore une chanson france-arabe qui vous parle de deux villes révolutionnaires, Paris et Alger. Et puisque de son soleil on ne peut se lasser, je vous laisse avec Lynn Monti, Alger Alger.
J'aime toutes les villes un peu plus Paris, les Kenmachis comme l'Algérie, comme elle est belle, on a habaf la belle. الجي الجي شحال نحبها كي نكون بعيد نتفكرك ولا بلونش قلبي بلين دو تريستيس ما ينساك شان غفانش ويتي بلاس دي غوفرنمان مع عمر بحبابي لو نكون غريب بلين دو تو Comment voulez-vous un amène habha Fiha kbrou yemma ou baba De son soleil je ne puis me passer Depuis mon enfance Ne j'irai dans ces rues sans me lasser Qalbi qalbi on est J'aime toutes les villes un peu plus Paris Les Kenmachis comme l'Algérie Comme elle est belle نبقى في الحبال فاجن نكون ما ننساها الجي الجي شحال نحبها Beaucoup de jeunes gens يروحوا ولا غريت واحد يدوس والاخر خلى والدي داكو دتات كيف يكونوا بعيد يعرفوا القيمة ويتي مون بير وين راك يا لكن ماشي كم الجيري كم البال ونحب في الهبال فاين نكون ما ننسى الجي الجي شحال نحبها
Novembre 1954, vous êtes dans la Casbah d'Alger, vous sirotez votre Vichy Célestin lorsque soudain, des coups de feu éclatent. Ce 1er novembre, c'est la Toussaint Rouge. Règlement de compte dans la Casbah, gendarmerie et usines bombardées, récoltes brûlées, des enseignants qu'on abat en pleine rue, partout, des fusillades. La France prépare les représailles et elle envoie sa carte Joker, le non moins célèbre, Général Jacques Massue. Alors que la France vient d'être vaincue par le Viet Minh en Indochine, ce sont près de 30 attentats qui éclatent le même jour et sur tout le territoire algérien. Les coupables sont largement inconnus, ils signent leur œuvre de trois lettres FLN pour Front de Libération Nationale. Ah ben mince, on l'avait pas vu venir. La Toussaint Rouge, c'est le début officiel de la guerre d'Algérie. À Paris, c'est la panique. Pierre Mendès France, alors président du Conseil, demande à Jacques Soustelle, gouverneur d'Algérie, Jacques, est-ce une révolte ? Et Soustelle de lui répondre, « Non, monsieur le Président, c'est une révolution. » Alors on cherche à négocier, que faire de cette Algérie qui devient de plus en plus encombrante ? François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur et qui passait par là, s'écrit, « La seule négociation, c'est la guerre. » Et ce sera entendu. Alors voilà. Voilà comment démarre le conflit le plus violent de son époque. Une guerre que les Français ne lâcheront pas. Ils sont 1 million en Algérie, des gens installés depuis parfois plusieurs générations au beau milieu de 9 millions d'Algériens de souche. Et puis pour beaucoup de Français, si l'Algérie c'est fini, c'est la mort de la France. Et en particulier pour l'armée, le général Salan en tête, qui ne veut surtout pas perdre l'Algérie. Alors, pour calmer l'armée, la France double la présence militaire en Algérie, qui passe à 80 000 hommes, sans compter les milices locales. Mais ça ne suffit pas dans la Casbah d'Alger. Il existe un réseau indépendantiste qu'on appelle le réseau bombe, puisque leur particularité, c'est de poser des bombes. Et il s'avère qu'ils sont particulièrement efficaces pour ça. Piloté par le FLN, évidemment, notamment par Yassef Chahadi, ce groupe est particulièrement sanglant et violent. Beaucoup de jeunes, des membres de la pègre et même des femmes étaient engagées dans ce réseau. Elles dissimulaient ainsi les armes et le matériel sous un haïk, ce vêtement blanc typiquement algérien qui couvre tout le corps. Parmi ces femmes, on se souvient de Djamila Boupacha, qui avait été défendue par Gisèle Halimi, mais aussi Zora Drif ou Djamila Bouhired, qui sert d'affiche à notre émission. À Paris, rien ne va plus, Mendès France tombe, Edgar Faure aussi, le socialiste Guy Mollet le remplace comme président du Conseil, et Guy Mollet donne carte blanche au général Massue pour régler le problème d'Alger. Et le général Massue, c'est un personnage particulier. Parachutiste aguerri, compagnon de la libération, il a été envoyé en Indochine où ses hommes viennent de se faire massacrer par le Viet Minh. Il a aussi été l'un des officiers dirigeant l'attaque du canal de Suez. À l'époque, Jacques Massue était tellement chaud qu'il avait voulu marcher sur le Caire pour faire tomber Nasser, ce qui lui fut refusé par ses supérieurs. Bref, ce sont les hommes du général Massue qu'on envoie pour rétablir la paix en Algérie. Et je vous laisse imaginer comment ces types, électrisés par la mort et l'amertume, vont ramener l'ordre dans la colonie. Vous ne seriez pas surpris si je vous disais que ça s'était mal passé. En tout cas, cette rencontre entre les parachutistes de Massue et la jeunesse algéroise va marquer le commencement de la bataille d'Alger, qui se déroule toute l'année 1957 et qui est un véritable point noir dans cette guerre d'Algérie. Massu va quadriller le territoire pour mener une guerre contre-insurrectionnelle, et ce, contre le moindre militant. Son objectif, c'est de savoir tout sur tout le monde. Alors pour ce faire, ils s'y sont pris à la française, si j'ose dire, ils ont fait des fiches. Beaucoup de fiches, ce qui a mené à l'arrestation de membres clés du FLN, Larbi Ben Mehdi, Yassef Chahadi, Djamila Bouhired, ainsi que l'élimination d'Ali Lapointe et de bien d'autres Algériens, militants, terroristes ou simplement innocents. Une lutte impitoyable qui rappelle que, lorsque l'armée française se déploie, elle peut être redoutable. En 58, la France est donc en passe de gagner la guerre, la population est fatiguée, le FLN à genoux, la France n'a jamais été aussi violente. Sur le plan militaire, c'est une victoire française, mais sur le plan de l'opinion, la guerre est un massacre, et tout le monde le sait. La confiance ne sera jamais rétablie, l'Algérie française, tout le monde est d'accord pour dire que c'est fini. Et quant à la question de la torture, bien sûr qu'elle fut utilisée. Ça, même le général Massu l'a reconnu. Comme elle fut utilisée pendant la guerre d'Indochine ou dans le maquis des Cévennes, les interrogatoires avec violence, c'est une invention française. Codifiés en Algérie et exportés dans toutes les dictatures du monde depuis 1957, ils appellent ça la guerre contre-insurrectionnelle, gégène, interrogatoire musclé, privation de sommeil, fausse exécution, noyade. La France coche à peu près toutes les cases des crimes de guerre en Algérie. Et après avoir exécuté les otages, on pratiquait d'ailleurs ce qu'on appelle la corvée de bois, c'est-à-dire l'évacuation du corps dans la mer et par hélicoptère, bien qu'on les jetait aussi très souvent vivants. On appelait ça les crevettes bijards, car les pieds du prisonnier étaient bloqués dans du ciment. Et ça, j'aime autant de vous dire que tout le monde le savait aussi à l'époque, puisque les journaux avaient déjà annoncé, notamment Algérie Libre, que l'on kidnappait et torturait des militants. En contrepartie, on retrouve encore aujourd'hui dans le désert algérien des charniers de Français ou de Harkis qui furent jetés là par le FLN après avoir été torturés. Tous marqués du sourire kabyle, c'est-à-dire la gorge tranchée où on déposait nez, oreilles, sexe ou viscères de la victime. Bref, le noir brouillard d'une guerre moderne, c'est-à-dire sans limite. Il faudra attendre que Charles de Gaulle revienne au pouvoir pour régler le problème algérien, mais ça, c'est une autre histoire pour un prochain épisode. Cela prendra un peu de temps, mais quelques référendums plus tard, des massacres et un coup d'État, les accords d'Évian mettent fin à la guerre d'Algérie en 1962. C'est un divorce sec, pas de contact, ni de garde alternée. La France garde simplement pour 15 ans quelques bases dans le sud algérien, notamment Mersel Kébir, afin d'y tester leurs bombes atomiques. Mais pour le reste, la France et l'Algérie, c'est bande à part. Mais il est temps de passer à la face B de cet épisode, la chanson « Le déserteur » de Boris Vian. Mais cette fois, chantée par un chanteur algérien, Mouloudji. Cette chanson, « Le déserteur », c'est devenu l'hymne du pacifisme d'après-guerre. Elle raconte l'histoire d'un homme appelé à combattre sous les drapeaux et qui refuse de s'engager, prêt à mourir pour dire que les guerres sont des bêtises. On connaît très bien la version de Boris Vian, c'est d'ailleurs la plus célèbre. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle fut écrite avec Mouloudji, un chanteur algérien. Pour terminer la chanson, Vian avait écrit « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'ai des armes et que je peux tirer ». Mais Mouloudji préférait terminer la chanson autrement. Il a donc suggéré à Boris d'écrire « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer ». Et c'est bien mieux. Cette chanson devient universelle, le symbole du refus de la guerre jusqu'à la mort. D'ailleurs, Boris Vian adresse sa chanson à Monsieur le Président, alors que la version de Mouloudji s'adresse à Messieurs qu'on nomme grands. Et donc, voici Mouloudji avec son déserteur.
Messieurs qu'on nomme grands, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grands, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
Ce qui est sûr, c'est que la colonisation a transformé l'Algérie de manière irréversible. Les conquêtes de 1830, les révoltes, puis la guerre d'indépendance ont été si violentes qu'elles ont marqué à jamais les consciences algériennes. Pendant toute cette période, le seul moyen pour les indigènes de se faire entendre, c'était de se tourner soit vers leur origine, soit vers la France. Mais la France n'a pas toujours été un bon exemple, alors les Algériens se sont souvent réconfortés dans ce qui avait fait leur grandeur depuis des siècles, l'islam et la langue arabe. De quoi rappeler que l'Algérie fut islamisée avant d'être arabisée, l'islam y est donc présent depuis très longtemps. Cette association entre l'arabe et l'islam, c'est ce qui fait justement que cette civilisation domine une large partie du monde. Un croissant qui part de Dakar jusqu'à Bali, avec pour centre Istanbul, Damas et la Mecque. Or, on l'a déjà dit, mais les oulémas étaient très importants en Algérie. Dans la presse, à l'école, dans la vie quotidienne, et même si le FLN adopte une rhétorique socialiste, il y a aussi toute une symbolique et un discours islamique. Le fait est qu'il y ait autant de militants socialistes que d'islamistes au FLN. Mais c'est la ligne nationaliste et salafiste qui finira par l'emporter, les militants communistes ayant été purgés au fur et à mesure. C'est le national-salafisme qui apparaît comme la réponse la plus crédible au colonialisme français, un retour à la pureté originelle de l'islam, laquelle permettra de libérer la patrie par le combat et le sacrifice. Un salafisme qui se veut indépendant du salafisme saoudien et des frères musulmans. Malek Benhabi, philosophe algérien renommé et penseur salafiste, avait dénoncé la paralysie morale du monde musulman. Pour Benhabi, si l'Algérie est colonisée, c'est qu'elle fut colonisable. Si le monde arabe est sous la botte occidentale, c'est parce qu'il a oublié qu'il était musulman. Il faut donc revenir à l'origine, quand l'islam n'était pas encore soumis, retourner aux sources du Coran et de la vie des premiers musulmans. Malek Benhabi, dans ses livres et par la presse, condamnera très sévèrement le FLN. En gros, il les trouvait trop socialistes et pas assez musulmans, trop influencés par Sartre ou Mauriac et pas assez par Muhammad. A l'époque, et parmi les révolutionnaires algériens, on traquait les berbéro-matérialistes, soit ceux qui n'étaient pas musulmans ou pas arabes, trop berbères ou trop socialistes. Mais malgré cette critique du FLN, les idées de Malek Benhabi avaient déjà percolé dans toute la jeunesse, et spoiler, elles reviendront plus tard. Et c'est pour ça que les combattants du FLN étaient appelés les Mujahidin, soit les combattants du djihad. Le FLN avait appelé dès sa création au djihad contre la France une lutte sans merci et jusqu'à la mort au nom d'un idéal qui les transcendait tous. C'était d'ailleurs un clin d'œil à la révolte d'Abdelkader en 1830, lequel avait aussi appelé tous les Algériens au djihad. Et tout ça, avec un cri de ralliement, ils répétaient ce que leurs ancêtres avaient déjà crié pour défendre leur identité dans le passé, le fameux « Allahu Akbar, Dieu est grand », car pour tout musulman, la fin des temps, l'origine des choses, c'est Dieu. La déclaration d'indépendance en 1954 fonde un État algérien indépendant dans le cadre des principes islamiques, le FLN ne s'est donc jamais trompé, et dans les zones contrôlées par le Front de Libération Nationale, c'était la justice musulmane, la charia, qui était appliquée. La guerre d'Algérie, ce n'est donc pas une guerre religieuse, c'est un conflit décolonial complexe, mais la religion était l'un des moteurs principaux de l'action. Un moteur imbriqué avec des idéaux démocratiques, socialistes, et sans oublier évidemment des coloniaux. En conclusion, l'indépendance algérienne a pour point commun avec la Révolution française de s'être faite par deux voies, la presse et l'agora populaire. Car si les idées de la Révolution française se sont diffusées dans les salons des grandes dames du XVIIIe siècle, en Algérie, ce n'étaient pas des salons féminins, mais des groupes d'hommes se réunissant, comme le voulait la tradition, autour des mosquées dans les recoins de la Casbah, à voix basse, pudique et discret. Il parlait de tout, de rien, de la famille, de la politique ou de Dieu. Et aujourd'hui, trop spirituel pour le socialisme, trop lucide sur la nature humaine pour le libéralisme et trop rebelle pour le salafisme, l'Algérie n'a toujours pas trouvé l'idéologie qui ferait consensus parmi sa population. Le monde arabe non plus d'ailleurs, qui aujourd'hui encore hésite entre la mosquée et le McDonald's. Ce qui est certain, c'est que dans notre monde désenchanté, à une époque où les grands récits, socialistes ou libérales, ont acté leur mort, ce sont les civilisations qui sont revenues. Comme mises en parenthèse pendant quelques siècles, elles sont sorties de leur sommeil avec autant de nationalisme et de ferveur religieuse pour hanter à nouveau nos quotidiens. Et pour le prochain siècle, il ne me semble pas déraisonnable de dire que l'islam sera l'un des grands récits dominants. On peut s'en réjouir ou le regretter, ça n'en reste pas moins une réalité. Avec l'Algérie, l'universalisme français est mort, on l'a dit dans l'épisode précédent, il a perdu en Algérie contre l'islam. On pourrait même dire que l'influence de la France sur l'Algérie a réveillé le caractère révolutionnaire de l'islam. Et pour ça, je serai aussi sévère que Malek Benhabi, si l'universalisme français a perdu, c'est que ceux qui l'ont appliqué avaient oublié la pureté radicale de leur projet. Car les Français ont été injustes, violents et méprisants avec les indigènes. Comment faire croire à la liberté, à l'égalité ou à la fraternité dans ces conditions ? L'islam leur donnait réconfort, fierté, une loi stable, héritée du temps, là où la France n'était qu'amertume, rancœur, et son code civil n'était pas vu comme l'aboutissement d'une civilisation, mais comme un moyen de les asservir. Car c'est quand l'homme ne sait pas où il va que la question de ses origines devient vitale, n'en déplaise à Nietzsche, les dieux ne sont pas morts. Les meurtres de masse, la colonisation, pas même les génocides n'en sont venus à bout, les dieux ne mourront jamais. Et c'est sur cette réflexion que je vous laisse avec la babouche de Salim Alali, un autre grand nom de la musique france-arabe, car la babouche, ce n'est pas une pantoufle, s'il vous plaît, c'est une chaussure héritée des cavaliers du désert, véritable symbole de l'arabité. Pas touche à la babouche donc, de la même manière que l'islam ou la langue arabe, c'est un peu une constante historique. Et pourquoi ? Eh bien parce que c'est oriental, sentimental, c'est devenu international. Merci de votre écoute, c'était la dernière radio libre de francophonie en direct de Bruxelles Khalifa. Choukran Sidi, bonne nuit et yalla. Mami Tosh, la babouche de Ori.